Pierre Bézé, bonjour.
Bonjour.
Donc vous présentez un Avignon, un spectacle intitulé Solomie Rouge, une comédie héroïque qui a pour thème en fait les mineurs.
Oui, oui, tout à fait. C'est une comédie, on peut dire une comédie musicale, peut-être pas exactement le genre comédie musicale, mais enfin ça, il y a beaucoup de musique en tout cas. Et c'est un spectacle qu'on a fait un petit peu à la suite de la fermeture des mines de Provence. Hein, le bassin de Gardanne, on n'a pas l'idée de penser que la Provence est une terre de mines, mais en fait, il y a eu des mines depuis le Moyen-Âge et il y a une longue tradition. On peut dire qu'il y a une culture minière en Provence. Et donc, on avait envie de faire quelque chose. Quand ça a fermé en 2003, déjà, la mairie de Gardanne nous avait demandé de monter un événement un peu particulier au moment de la fermeture. Et à partir de ce moment-là, on a eu l'idée de faire un spectacle. Et puis voilà, on a mis 3 ans à le faire, en fait. On l'a créé en janvier 2006.
Alors, c'est un spectacle qui retrace un peu la vie des mineurs, ou la fermeture, le problème des fermetures ou...
Ben, disons que c'est un spectacle qui aborde pas la question tout à fait directement. On représente pas des mineurs véritablement. On est parti sur une fiction. Moi, ce que je voulais, moi-même, j'ai travaillé dans une mine de charbon pendant 10 ans. J'étais ingénieur du fond. Et en plus, j'étais délégué syndical CGT. Donc, j'étais très proche du milieu ouvrier de la mine, disons. Hein. C'est là que j'avais la plupart de mes amis. Et j'avais depuis toujours envie de faire quelque chose pour la mine, parce que j'ai quitté la mine à un moment donné, j'ai fait du théâtre, et maintenant, voilà, depuis 20 ou 25 ans, je fais du théâtre, mais voilà, je gardais ça au fond de moi. Mais j'avais besoin d'une distance, je voulais pas faire Germinal, quoi. J'avais pas envie de représenter, voilà, le pauvre mineur au fond, oh, comme il souffre, et oh, comme c'est pathétique. J'avais envie de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et cette distance, on l'a trouvée à travers une fiction, c'est celle d'une troupe de saltimbanques qui aurait décidé, nous on situe ça dans le passé, on situe ça au début du XXe siècle, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'importance hein, à l'époque. Une troupe de saltimbanques qui aurait décidé de faire un spectacle au fond de la mine. Et donc ce qu'on voit sur scène, c'est une troupe de comédiens qui descend au fond de la mine pour faire un spectacle. Donc... eux-mêmes, effectivement, c'est un peu un spectacle en tableau, c'est-à-dire qu'on s'est demandé chaque fois, à chaque tableau, qu'est-ce qui pourrait amuser les mineurs, qu'est-ce qui pourrait les distraire, qu'est-ce qui pourrait les amuser. Et on sait bien que le spectacle, c'est toujours un miroir qui est quand même comme ça tendu à la société, d'une manière générale. Bon, ben là, c'est un miroir qu'on tend aux mineurs, mais on est quelquefois dans des choses qui sont très, très fantaisistes, très rigolotes. Hein. Et en même temps, effectivement, à travers ces différents tableaux, sont évoqués ce qui fait, enfin, l'univers du fond, les dangers du fond, les accidents, les deuils, les luttes, et puis la fête aussi. Donc voilà, mais c'est tout vu à travers ce prisme un petit peu déformant de saltimbanque, ce qui nous permet aussi d'avoir des filles sur scène, d'être un petit peu ailleurs, d'être un peu décalé.
Alors votre compagnie s'appelle ?
Ça s'appelle le Théâtre du Maquis, c'est une compagnie d'Aix-en-Provence. Donc voilà, on est à 10 km de Gardanne, hein, de ce bassin minier. On a aussi fait beaucoup d'interviews de mineurs en Provence et aussi dans les Alpes de Haute-Provence où il y a eu des mines qui ont fermé beaucoup plus tôt, qui ont fermé dans les années 60, mais où il y a encore une mémoire de la mine. Et ça, c'était un peu pour donner une culture à l'ensemble de la troupe, parce que à l'intérieur de la troupe, il y a que moi qui avais ce passé minier. Et donc, voilà, on a rencontré aussi beaucoup de mineurs, et puis on a donné ça, on a créé ça à Aix, et puis on a joué à Gardanne, et puis on a joué dans des tas de villages du pays minier, et puis on a joué dans les Alpes de Haute-Provence aussi, dans des endroits où il y avait une mémoire de la mine assez vive, et puis maintenant, et ben le spectacle, on va le jouer dans le bassin de Saint-Étienne, on va le jouer à la Ricamarie, qui est un des endroits symboliques un petit peu, parce qu'il y a eu un grand dirigeant syndical qui venait de la Ricamarie près de Saint-Étienne. Il y avait une mine importante là, donc on va jouer également là, et puis on va jouer en Belgique, où il y a eu également une catastrophe comparable à celle de Courrières, hein, c'est la catastrophe de Marcinelle, qui a eu lieu en Belgique, et qui commémore l'an prochain, donc on va aller en Belgique à cette occasion.
Quel est votre regard sur l'après 2003 en ce qui vous concerne?
C'est-à-dire l'après 2003 de quel point de vue?
Après les mines.
Après la fermeture des mines. J'ai une certaine tristesse par rapport à ça. J'ai assisté au dynamitage des puits. Tous les gens qui étaient là, il y a beaucoup de une grande partie de la population qui était venue voir dynamiter les puits, où l'émotion était perceptible, comme ça, très forte. Et c'est des bassins qui existent depuis le Moyen-Âge, quoi. C'est une culture qui disparaît, je ne sais pas. Moi, j'espère que ça va vivre dans la mémoire, parce que c'est important. Il y a un certain nombre de valeurs qui étaient portées par cette culture minière de solidarité, d'entraide de toutes sortes, hein, pas seulement à la mine, mais les gens s'aidaient pour faire les maisons, pour faire toutes sortes de choses. Donc il y a toute une culture qui disparaît. Moi, effectivement, j'ai une certaine tristesse par rapport à ça. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on est dans une société qui est en train de... qui subit une espèce de déréalisation, de perte du réel, de perte du poids, de la pesanteur. On est dans le virtuel, hein, on vend des logiciels, tout ça, et puis les industries qui nous ramenaient à, d'une autre manière que les paysans, mais qui nous ramenaient aussi à la terre, hein, eh bien c'est quelque chose qu'il faudra peut-être payer un jour, quoi, si on laisse passer tout ça comme ça.
Les gens, la population, elle vit de quoi maintenant dans ce bassin?
Alors la reconversion s'est faite, on ne peut pas dire que ça se soit mal passé. Bon, le plan charbonnier, c'était quand même un plan, c'est un des meilleurs plans sociaux qu'il y a eu dans ce genre d'entreprise. Si on compare à la sidérurgie ou au textile, le plan a été beaucoup plus favorable, hein, au personnel. Hein. En gros, c'est qu'on amènera tout le monde à la retraite, c'est-à-dire où les gens trouveront un autre métier, ou bien de toute manière, on leur donnera un salaire de remplacement jusqu'au moment où ils pourront prétendre à la retraite. Donc individuellement, il n'y a pas eu de souffrance de ce fait-là. Mais il y a des gens quand même qui sont un peu déboussolés, quoi, qui se retrouvent en dessous de 50 ans à rien faire. Et puis, bon, ils touchent effectivement une sorte de retraite ou de salaire de remplacement. Mais enfin, ça fait quand même un traumatisme régional. Alors, peut-être moins que dans des grands pays miniers comme le Nord-Pas-de-Calais ou la Lorraine ou Saint-Étienne, hein, Saint-Étienne qui a été le premier, parce que là, c'était plus petit. En Provence, il y avait 2000 personnes qui travaillaient au charbonnage, dont la moitié au fond. Donc, 1000 mineurs, c'est très peu. Pour vous qui venez du Nord, c'était quand même une des plus grosses entreprises de la région, hein. Donc ça a forcément laissé des traces.
Alors, vous disiez tout à l'heure que les puits ont été dynamités. Qu'est-ce qu'il reste encore comme trace visible de cette industrie?
Alors, il en reste encore, mais alors, disons que les charbonnages, ou je ne sais pas si c'est les charbonnages, ou ce qu'on appelle la police des mines, c'est-à-dire les règles les règles qui sont appliquées aux concessions. Hein, les charbonnages ont une concession pour l'exploitation du sous-sol et dès le début, dans des textes qui sont souvent très très anciens, prévoient le moment où il y aura la fermeture et dans quel état il faudra rendre le site. Donc cette police des mines prévoit que s'il n'y a pas de collectivité qui expressément exprime un avis favorable à la conservation d'un équipement et qui s'engage à l'entretenir, à en faire quelque chose, on rase. Donc, il suffit que les gens ne savent pas très bien quoi en faire et ne se déterminent pas pour que ça soit rasé. Donc, on ne peut pas dire dans le doute, on attend un petit peu, etc. Ça va très vite et s'il n'y a pas de décision des collectivités, communes, communautés de communes ou départements ou régions, eh ben c'est rasé très vite. Donc, voilà, le problème, c'est d'essayer de conserver des choses, des traces de cette histoire, hein, parce que voilà, c'est notre patrimoine.
Alors, le spectacle dont Solomy Rouge en fait partie, de ce patrimoine, maintenant?
Oui, enfin, le théâtre, c'est éphémère, hein, c'est fait pour durer quelques saisons et puis disparaître.
Et le titre, Solomy?
Solomy Rouge, et alors, il faut dire en provençal, ça s'appelle Ballade Rouge. C'est un poème qui a été écrit par un Aixois, Folco de Baroncelli, qui a écrit ça en provençal, et c'est un poème à la gloire des Sioux. Donc on a fait ce rapprochement entre la disparition des Sioux et la disparition des mineurs. Et c'est un poème qui est écrit en provençal et qui est connu encore à l'heure actuelle par les Sioux. Il a été écrit sur l'air de la Ghost Dance, la danse des esprits, qui était un air très célèbre de la résistance Sioux.
Pierre Mézier, merci beaucoup.
Merci à vous.